Pour ce repas, on va attaquer la dernière session du colloque, celle qui s'intitule Mimer le vivant, enjeux et conséquences. Alors cette session qui va nous occuper tout l'après-midi sera en fait en deux grandes parties. Une première partie qui va tourner autour d'aspects, pour emprunter le terme de Michel Morange, l'appropriation du vivant par l'être humain. Donc on parlera de biologie synthèse par exemple. Ensuite nous aurons une petite pause café. Et nous terminerons la journée par une session autour de en lien avec la robotique, et en particulier ce qu'on appelle la robotique bio-inspirée, et également des aspects liés à la robotique humanoïde. Donc pour débuter cette session, la conférence sera donnée par Michel Morange. Donc Michel Morange est professeur de biologie à l'École normale supérieure. Il a été élève de Bernard Ponty, Jacques, papa Maurice, c'est bien ça, mais quelle famille hein. Michel Morange a développé sa réflexion autour de perspectives multiples, scientifiques d'abord, autour de biologie moléculaire et cellulaire, biologie du développement, etc., etc., mais également historique et philosophique. Et dans ces derniers domaines, son travail porte sur les transformations des sciences du vivant au XXe siècle. Ses travaux les plus récents ont porté sur la question « qu'est-ce que la vie ?», qui est centrale à ce colloque, le sens de la post-génomique et les difficultés de l'interdisciplinarité en biologie. On a beaucoup parlé au cours de ce colloque, effectivement, de la difficulté du dialogue interdisciplinaire. Sa conférence porte sur l'appropriation du processus du vivant par l'être humain. Et voilà. Merci
beaucoup. Merci beaucoup pour cette très agréable présentation. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce colloque, et particulièrement je voudrais remercier Dominique Dunon qui a eu l'idée de ce colloque et qui l'a porté à bout de bras d'une certaine manière. Je vais essayer d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure il y aura deux parties, je vais essayer de les réunir dans mon exposé d'une certaine manière, en vous montrant que l'appropriation du vivant s'est accompagnée aussi de l'acquisition de connaissances sur le vivant. Alors, l'appropriation du vivant, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et simplement pour vous rappeler que utiliser le vivant, ben, l'agriculture, l'élevage le font, mais que les biotechnologies aussi sont anciennes, au moins depuis la révolution néolithique, fabriquer des fromages, fabriquer du vin, etc. Et que même la guerre biologique est ancienne, c'est-à-dire utiliser les êtres vivants pour la guerre, alors sans savoir forcément que c'était des êtres vivants, mais toujours est-il qu'au Moyen-Âge, c'était une pratique quand on assiégeait une ville, et on avait pu récupérer quelques cadavres de personnes atteintes de la peste, de balancer les morceaux de cadavres dans la citadelle assiégée, en espérant bien que la maladie se propagerait parmi la population. Donc, c'est pas nouveau comme chose. De même, d'ailleurs, que ce qu'on discutera un peu plus tard, qui est imiter le vivant à travers, par exemple, la production de robots ou comparer ces robots au vivant, ce n'est pas non plus nouveau. J'ai mentionné ici le rêve d'Icare, donc l'idée de pouvoir porter des ailes et ainsi voler comme les oiseaux. Donc, le passage du vivant à l'imitation du vivant, à la connaissance, ce circuit entre connaissance du vivant, imitation du vivant et utilisation du vivant, il est très ancien. Et mentionné dernier aspect de cette appropriation du vivant, la sélection artificielle. Alors, on connaît bien le rôle qu'elle a joué dans l'élaboration des idées de Darwin sur l'évolution naturelle, mais la sélection artificielle a été pratiquée depuis longtemps, et en particulier d'ailleurs dans le monde arabe, avec la sélection artificielle des oiseaux de proie ou des chevaux, puisque c'est eux qui ont les premiers vraiment sélectionné des races particulièrement performantes. Donc tout ça, c'était pour vous dire que c'était ancien, et je ne vais pas pouvoir traiter toute cette question. Ce que je voudrais d'abord, c'est insister sur l'importance du mécanisme. Vous allez voir pourquoi. L'interprétation mécanique du vivant a très certainement joué un rôle moteur, à la fois dans cette utilisation-appropriation du vivant, dans cette dans le fait qu'on mime le vivant aussi, et aussi dans la connaissance du vivant, et dans ce cercle que j'essayais de décrire précédemment. Puis j'en viendrai à ce qu'a apporté le XXe siècle, avec trois révolutions moléculaires, la révolution de la théorie de l'évolution, et puis l'informatique, pour vous montrer comment ces trois grands progrès scientifiques ont changé la donne, et avant de tirer quelques conclusions et questions posées par cette appropriation du vivant aujourd'hui. Bien évidemment, je n'ai pas cherché à parler des mêmes sujets que ceux qui seront abordés avec beaucoup plus de conférences par les conférenciers successifs. Je veux plutôt donner un cadre dans lequel finalement ces projets, d'une certaine manière, peut-être s'inséreront et dans lequel vous verrez mieux leur signification. Alors, également avant de commencer, juste vous dire, donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le terme appropriation. Que signifie-t-il et comment cette appropriation s'est faite? Il y a des questions que je vais laisser en partie de côté, comme la signification philosophique de cette appropriation, au sens, par exemple, de la distinction naturelle-artificielle. C'est un vaste débat. Je n'ai pas le temps de l'aborder. Et en plus, l'idée de ce colloque, je crois, c'était plutôt de focaliser sur la dimension scientifique, quitte éventuellement à ce que d'autres colloques abordent ces questions éthiques, ces questions philosophiques, éthiques, puisqu'évidemment, il y a beaucoup d'enjeux éthiques posés par cette appropriation du vivant. J'en dirai que quelques mots, mais vraiment quelques mots. Et puis, il y a aussi les aspects juridiques, comme on l'a vu hier, c'est-à-dire cette modification du vivant, dans quel cadre juridique peut-elle être opérée. Alors, l'importance du mécanisme comme manière justement de comprendre à la fois l'appropriation du vivant, la description du vivant et cette circulation entre description du vivant, appropriation du vivant et imitation du vivant. Alors, là encore, il faut faire attention, il y a deux significations différentes du mécanisme tel qu'il a été introduit par exemple par Descartes. Il y a une certaine ambiguïté. Quand on parle du mécanisme du XVIIe siècle, son âge d'or, on peut vouloir dire deux choses. La comparaison des organismes vivants, mais surtout de l'animal à la machine, ou bien simplement prendre le mécanisme comme la physique de l'époque et dire que c'est une interprétation physique des phénomènes vivants. J'insisterai plutôt sur le premier aspect, c'est-à-dire cette comparaison entre l'organisme vivant et une machine. Alors, c'est là encore, même si Descartes, évidemment, a donné une forme particulière à cette comparaison, elle est ancienne. Et dès l'Antiquité, on trouve de telles comparaisons. Par exemple, chez Aristote, il y a une belle comparaison entre le mouvement des bras, des membres, par exemple, et le mouvement qu'on observe dans les catapultes ou dans d'autres objets techniques construit par les êtres humains. Chez Galien aussi, il y a une comparaison entre la digestion, par exemple, et les processus de filtration qu'on peut opérer avec des pierres ou autres. Donc, il voit la digestion comme une filtration, au moins dans une première étape, des aliments. Donc, la comparaison mécaniste, elle est là, et même chez des auteurs qui privilégient une vision qui nous semble souvent beaucoup plus spiritualiste, il y a une âme qui anime les corps, etc. Mais néanmoins, la comparaison avec la machine, la similitude avec la machine est faite dès l'Antiquité. Et le corps humain, même au Moyen-Âge, là encore dans une période où on ne s'attendrait peut-être pas à une forme forte de mécanisme, au Moyen-Âge, le corps humain est représenté comme une machine, est vu comme une machine, et une superbe machine. Et on comprend mieux, si vous voulez, l'importance que va prendre à partir du XIVe siècle, XVe siècle, donc fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, la dissection. Quand on dissèque les organismes, c'est pour admirer ce qu'on considère comme la machine la plus parfaite de la nature, c'est-à-dire le corps humain. Et donc, on ouvre le corps pour découvrir la machine. Donc, attention à ne pas faire du mécanisme une sorte d'anomalie qui serait apparue à l'époque de Descartes. Les racines sont beaucoup plus anciennes, la comparaison entre machine et être vivant, a commencé bien avant. Alors, le mécanisme de Descartes, vous le connaissez, l'animal est une machine, ce qui lui permet de se passer de l'âme, selon Aristote, partie animer les mouvements, par exemple, tout en fait réflexe et tout est machinique. Il y a plus, il y a une... Pour essayer d'expliquer comment fonctionne cette machine, il fait appel aux machines de son époque. Et chez Descartes, il y a deux grands modèles de machines. C'est l'orgue, l'instrument de musique, et c'est les fontaines du château de Versailles qui sont déplacées par les mouvements de l'eau. Donc, et qui sont techniquement de très belles réalisations, ou par les mouvements de l'eau, ou par les mouvements des gens qui passent près des statues, qui, par exemple, font fuir Diane parce qu'elle est nue. Si on marche pas très loin de la statue, il y a tout un système qui permet à la statue de se retourner et de faire semblant de fuir pour garder sa dignité, sa pudeur. Donc ce sont ces machines auxquelles il fait appel. Et ça, c'est un aspect aussi fort du mécanisme, c'est que l'explication mécaniste... Oui, on m'entend mal ? D'accord. L'explication mécaniste, en fait, est une explication toujours en termes des machines de son époque. Alors, l'être humain, vous savez, chez Descartes, il y a quand même des exceptions. Et en particulier, une première exception qui est le cœur, de manière étrange, puisque avant lui, Allais a décrit le cœur comme une pompe, superbe exemple de comparaison à la machine, eh bien, Descartes, lui, va adopter un autre modèle, il va faire le cœur d'un organe dans lequel le sang chauffe et boue. Donc, il abandonne le modèle de Haller pour utiliser un modèle qui est, lui, beaucoup plus ancien. Et puis, vous savez aussi que l'être humain échappe à cette vision, puisque lui, lui seul, possède une âme raisonnable. Donc le mécanisme de Descartes n'est pas total. Alors comment juger d'une certaine manière l'œuvre de Descartes ? Il y a chez Descartes des anticipations extraordinaires, comme par exemple les projections des impressions visuelles sur le cerveau. C'est, quand on regarde les dessins de Descartes et qu'on compare au ce qui sera montré à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est-à-dire la projection sur les lobes occipitaux des images, on est frappé quand même de l'anticipation de Descartes. Et pareil pour les réflexes aussi, la manière dont fonctionnent les réflexes. Il y a, d'une certaine manière aussi, on peut voir chez Descartes un programme de recherche, c'est-à-dire il met en route un programme qui va rester effectivement celui de la biologie pendant tous les siècles qui suivent. En même temps, et ça, c'est le côté, pas sombre, mais disons, c'est le côté faible de cette comparaison, c'est que les mécanismes auxquels fait appel Descartes, évidemment, ces leviers, ces ressorts, cette circulation des esprits animaux, tout ça n'a guère de réalité et va être critiqué par beaucoup de biologistes, de médecins, enfin, biologistes avant l'heure, de médecins de son époque. Je vais juste vous prendre un exemple, la sécrétion. On connaît, on commence à décrire les glandes qui sécrètent. Eh bien, comment expliquer la sécrétion par une glande, par exemple, comme le pancréas ? Eh bien, le modèle que les mécanistes proposent, c'est un modèle tout simple, c'est la poire. C'est-à-dire, la sécrétion est déclenchée par une contraction musculaire. Et au XVIIIe siècle, les physiologistes vont se réjouir de montrer que ça n'a rien à voir, que les glandes ne se contractent pas et que c'est une augmentation de la circulation du sang qui probablement est liée au phénomène de sécrétion. Donc on remplace une explication mécaniste maladroite par une explication plus complexe et plus proche de l'art. Aujourd'hui, nous savons de ce qui est vrai. Et puis, il y a une dernière difficulté dans cette comparaison, c'est que une machine, elle est construite. Or, l'organisme, il s'auto-construit. Et Descartes a bien conscience de cette difficulté, c'est pour ça qu'il va travailler beaucoup sur le développement embryonnaire. Mais ça va être une difficulté redoutable, parce que plus la machine est parfaite, plus il est difficile de comprendre comment elle a pu se construire tout seul. Alors, une relation, alors je voudrais insister sur cet aspect-là. Là, je vous ai dit, au fond, on prend la machine, on regarde la machine et puis on essaie d'expliquer le fonctionnement de l'organisme de l'animal de la même manière. Mais il n'y a pas que ce mouvement. Il y a aussi un mouvement inverse qui va de l'animal que l'on regarde, que l'on observe, pour en essayer d'en construire des machines. Donc, j'avais mentionné Icare, mais on peut mentionner Leonardo da Vinci, qui a aussi beaucoup regardé les oiseaux et essayé d'imaginer comment on pourrait voler en imitant ce que font les oiseaux. Et je pense qu'un des plus beaux exemples dans l'histoire des sciences, c'est l'exemple de l'électricité. Parce qu'il y a vraiment un va-et-vient entre l'observation physique de l'électricité, la mise en œuvre, on pourrait dire, progressive de l'utilisation de l'électricité, puis la découverte de l'existence d'électricité chez l'animal, en particulier à partir de l'observation des poissons électriques, et puis la fameuse expérience qui montre qu'il y a de l'électricité animale, qui est faite par Galvani. Mais de manière intéressante, vous savez que Volta va contester l'expérience de Galvani et il va dire « Non, non, c'est un phénomène purement physique, ce qui va être pour lui le moyen d'inventer la pile. » Donc on a un superbe exemple où en essayant d'expliquer ce qui se passe chez l'animal, on va avoir une invention d'une technique tout à fait nouvelle. Alors, machines et humains, juste pour vous dire aussi que depuis l'Antiquité, et ça reste encore vrai aujourd'hui, alors s'il y a une constante, c'est bien celle-là, c'est qu'on imagine qu'on puisse construire une machine qui ferait comme l'être humain. On s'interroge alors sur le fait que cette machine pourrait échapper à son constructeur. Donc, vous avez la tradition du golem en Europe centrale, dans les communautés juives d'Europe centrale. Vous avez les automates de Vaucanson et puis le mythe de Frankenstein. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement donc, il y a cette peur de la machine qui échappe, mais il y a aussi le fait que c'est un moyen de comparer en permanence l'être humain et la machine et de voir les différences. Et là encore, je pense que c'est une constante qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Alors, explication chimique et machine, parce qu'il y a une difficulté. Les machines, c'est quand même souvent, on a l'impression, de dispositifs physiques. Et donc, c'est vrai, par exemple, qu'à l'époque de Descartes et ses successeurs vont opposer les explications de type physique, mécanique, machinique, aux explications chimiques. Alors, le mot chimie est difficile à manipuler parce que ce n'est pas encore une science tout à fait constituée. Mais disons, par exemple, la fermentation, qui, de manière intéressante d'ailleurs, la fermentation qui est un processus créé, pas créé, mais disons utilisé par l'être humain, va devenir une source d'explication dès l'Antiquité pour le développement embryonnaire et pour un grand nombre de processus autres du corps humain. Donc il y a déjà un retour entre la technologie et l'explication du fonctionnement du corps humain. Il y a donc cette sorte d'antagonisme, mais il est partiel. Parce que si on prend Descartes, par exemple, Descartes mêle les explications mécanistes et les explications que nous appellerions aujourd'hui chimiques. Et puis alors j'ai mis ici que, je pense, je reviendrai rapidement dessus, mais que la biologie moléculaire, d'une certaine manière, réconcilie en partie ces deux visions, puisque à travers la notion de machine moléculaire en particulier, pas seulement, mais en particulier à travers la notion de machine moléculaire, une notion de machine macromoléculaire qui est devenue particulièrement à la mode à partir de la fin des années 1990 avec la découverte qui est représentée ici du mécanisme de l'ATPase, l'enzyme qui fabrique l'ATP dans la membrane interne des mitochondries, et le fait qu'on découvre qu'elle a un mouvement qui rappelle celui des rotors et des stators. Alors ça va avoir un gros impact. Et ça va être copié. Ici, vous avez un système donc, d'injection par des bactéries de protéines à l'intérieur des cellules. Et vous voyez qu'à partir d'une image de microscopie électronique, on fait un dessin qui ressemble plus à une machine construite par l'homme que probablement à ce qu'on a vu en microscopie électronique. Donc là encore, un aller-retour fort. Et juste pour vous mentionner, ce numéro de Cell qui décrivait toutes les machines macromoléculaires présentes dans les cellules. Alors donc le mécanisme a encore sa place, sa place dans la biologie contemporaine. Et je vous disais précédemment, c'est un mécanisme matiné de chimie parce que ces machines, ce sont des molécules chimiques, des macromolécules, et la chimie est totalement présente dans ces machines. Alors, mais en même temps, peut-être, certains aspects de la chimie, comme les liaisons faibles, qui joue un plus grand rôle que dans la chimie traditionnelle. Donc c'est une forme un peu particulière de chimie, mais néanmoins, là, il y a une réconciliation parfaite entre explication chimique et explication mécanique. Alors, pourquoi maintenant, la question est, c'est un peu, quand on réfléchit, c'est tout de même un projet un peu fou de vouloir expliquer les organismes vivants par les machines construites par l'homme. C'est, on prend quelque chose d'artificiel et on s'en sert pour expliquer quelque chose de naturel. Donc, ça demande une justification. Alors, longtemps, la justification, elle a été religieuse d'une certaine manière. Dieu avait créé les animaux, les organismes vivants. L'homme créait les machines. Comme, d'une certaine manière, il y avait une relation étroite entre l'homme et Dieu, ben, le processus était tout à fait évident. De même que Dieu créait les organismes, l'homme créait les machines. Donc, l'homme pouvait aider à comprendre l'autre. Si on abandonne, évidemment, la référence au créateur, il faut justifier pourquoi ce projet a été efficace. Il l'a été, puisque toute la biologie a utilisé ce modèle. Alors, il y a deux explications possibles. La première, c'est de dire, on ne sait pas comment expliquer, mais finalement, ce qu'on connaît bien, c'est la machine, parce qu'on l'a construite. Un principe qu'on retrouve encore aujourd'hui en biologie synthétique. Donc, puisqu'on la connaît bien, essayons de comparer. Et si ça marche pareil, c'est parfait. Si ça ne marche pas pareil, si l'organisme se révèle différent, néanmoins, la comparaison sera instructive. Et ça, vous retrouverez, par exemple, je veux dire, aujourd'hui, on voit très bien dans les sens du cerveau, je pense qu'il y a une sorte de référence permanente à l'ordinateur, pas forcément, et de moins en moins sans doute pour dire que le cerveau fonctionne comme un ordinateur, mais plus une référence qui, en pointant les différences, permet justement d'approfondir la connaissance du cerveau. Alors, il y a un dernier argument qui est avancé, c'est de dire, au fond, les techniques sont un prolongement du corps humain. Souvent, ça a été simplement un moyen d'étendre des dispositifs du corps humain, mais qui n'étaient pas efficaces. L'outil prolonge le corps humain. Donc, d'une certaine manière, la technique, la machine, n'est pas, comme on le dit souvent, étrangère au corps humain. Elle en est un peu le prolongement. Donc, se servir de la machine pour expliquer en retour des organismes n'est pas si absurde. Alors, je ne sais pas, je laisse à votre réflexion ce modèle, hein, qui a été beaucoup développé par les philosophes allemands du fin du 19e, début du 20e, et puis repris par Georges Canguilhem. Mais de toute façon, je pense qu'on est face à un fait, c'est-à-dire toute l'histoire des sciences du vivant, d'une certaine manière, a eu la machine, le mécanisme en face de lui, comme référence pour expliquer le vivant. L'organisme était lui-même ce qu'on devait imiter pour créer de nouvelles machines. Et ce passage entre l'organisme, la machine, entre l'application et la compréhension a été une caractéristique permanente du développement des connaissances sur le vivant. Alors, pourquoi j'ai tant parlé de mécanisme ? Eh bien, à cause de ça, parce que finalement, cette comparaison a joué un rôle dans la pensée biologique. Et s'est révélé pertinent ou pas, mais néanmoins, elle a contribué à augmenter les connaissances de biologique. Et puis, expliquer les organismes à partir des machines, mais c'est aussi fabriquer des machines à partir des connaissances biologiques et de ce qu'on a appris sur les êtres vivants. Donc, il y a ce mouvement-là. Alors, maintenant, j'en viens au, si vous voulez, comment cette tradition, au fond, a pris une forme un peu particulière au XXe siècle, avec ces grandes révolutions dans le domaine des sciences de la vie. Alors, le premier, c'est la révolution moléculaire. Et la première raison, ben, c'est de dire que s'il y a une transformation majeure, c'est parce qu'on a commencé à comprendre, à expliquer les mécanismes fondamentaux du vivant, ceux responsables de l'hérédité, de la synthèse des constituants caractéristiques du vivant, comme les protéines, etc. On peut aller, c'est vrai, mais en plus, il y a sans doute d'autres aspects dans la révolution moléculaire que je voudrais souligner. Un deuxième aspect qui n'est peut-être pas assez mis en avant, c'est qu'en biologie moléculaire, les outils que l'on utilise sont très souvent issus des organismes eux-mêmes. C'est-à-dire que le chemin entre la connaissance, la description et l'utilisation comme outil de recherche même est particulièrement court, le chemin est court et particulièrement exploité en biologie moléculaire. Or, quelques exemples, trois exemples. Le premier, c'est la fameuse expérience qui a montré que les gènes étaient formés d'ADN d'Avery, vous savez, 1944. Quand vous regardez comment il a identifié l'ADN, enfin lui et ses successeurs, parce que le premier article n'était pas encore tout à fait concluant, eh bien, ils ont utilisé une enzyme qui dégrade spécifiquement l'ADN, l'ADNase. Donc, finalement, c'est une enzyme qui elle-même a apporté une connaissance, confirmé une connaissance essentielle et a été utilisée comme un outil. Deuxième exemple, c'est les enzymes de restriction, ce que j'ai marqué, mais qui étaient des enzymes jouant un rôle dans les luttes entre micro-organismes et qui vont être réutilisées par les biologistes pour couper l'ADN à des endroits précis et qui va être un outil essentiel du développement de l'ingénierie génétique. Et puis, troisième exemple, alors un peu plus actuel même, très récent, c'est l'exemple du système CRISPR-Cas9 d'édition du génome, qui est donc un moyen de couper le génome à des endroits précis, soit pour y insérer de nouvelles séquences d'ADN, soit pour remplacer une séquence par une autre, par exemple fonctionnelle. Cet outil-là, eh bien, il est issu, vous le savez sans doute, de recherches sur un système très particulier présent chez les bactéries qui leur permet de se protéger contre les infections par les phages. Ce qui est remarquable, c'est que le système, la compréhension de ce système de protection contre les bactériophages, eh bien, cette compréhension est à peu près établie dans les années 2007. En 2012, donc, on va commencer à découvrir le mécanisme par lequel ça opère et montrer qu'il y a une nucléase qui coupe l'ADN qui envahit et des ARN guides qui sont eux-mêmes proviennent de séquences qui ont été préstockées dans le génome de séquences de phages venant d'infections antérieures. Et en 2012, dans le même article qui montre ce mécanisme, il y a aussitôt l'idée que là, on tient sans doute un superbe outil pour couper le génome à des endroits précis et pouvoir faire ce qu'on a déjà commencé à appeler à l'époque l'édition du génome. Donc, c'est assez caractéristique de la biologie moléculaire que le chemin entre la description des mécanismes, d'ailleurs, et leur utilisation technologique est très rapide, plus rapide que dans d'autres disciplines. Et cette utilisation, elle peut être pour la connaissance, mais elle peut être aussi pour des applications. Alors, en outre, il y a dans le système vivant une particularité qui est que c'est très facile d'agir sur le vivant à travers l'ADN. Souvent, les non-biologistes se disent pourquoi les biologistes se focalisent sur l'ADN à ce point-là. Ben, la première raison, c'est que travailler sur l'ADN, c'est le moyen le plus sûr de pouvoir modifier le vivant ou tester le fonctionnement de tel ou tel gène. Si on veut savoir à quoi sert une protéine, il est plus facile d'aller vers le gène de cette protéine, par exemple de l'inactiver ou de le modifier, et d'en déduire la fonction de la protéine dans l'organisme. C'est donc une voie d'entrée particulièrement forte. Alors, ce qui est un peu paradoxal dans l'histoire de la biologie moléculaire, c'est que la connaissance, le développement de la biologie moléculaire a été fait par des gens, en particulier beaucoup de physiciens, qui ont choisi ce domaine de recherche parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas d'application de la connaissance qu'ils développeraient. Et que, issus de la physique, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'entre eux considéraient que c'était, d'une certaine manière, les physiciens avaient collaboré, avait participé au développement de la bombe atomique et à tout ce qui s'en était suivi. Et donc, il se tournait des gens comme Léo Szilard, qui était un des premiers à montrer ce qu'était une réaction en chaîne, qu'elle pouvait conduire à une bombe, et qui alertait le président Roosevelt, donc à l'origine du projet Manhattan. Eh bien, Léo Szilard a fait de la biologie après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un domaine où les connaissances acquises n'auraient pas d'application, où on contribuait uniquement à la connaissance pure. Donc, c'est un peu paradoxal, vu aujourd'hui les développements dans tout le domaine des sciences du vivant. Alors, il n'y a pas que la biologie moléculaire. Il y a aussi la théorie de l'évolution, et en particulier, donc, la synthèse évolutive moderne, qui s'est développée dans les années 1930-1940. Elle est fondamentale, je crois, parce qu'elle a montré le pouvoir créateur de... Alors, à l'époque, c'était surtout la sélection naturelle. Aujourd'hui, on dirait sans doute plus le pouvoir créateur de l'évolution. C'est-à-dire montrer que la vie a inventé en permanence. Et comme ça, c'est un processus qui a duré 4 milliards d'années, eh bien, les formes vivantes aujourd'hui révèlent des mécanismes, des dispositifs particulièrement perfectionnés qui ont été ainsi inventés au cours de l'évolution. Et ça, je pense que c'est un élément très fort aujourd'hui où on le voit, où il y a l'idée largement répandue qu'en comprenant le vivant, on va comprendre ou découvrir des mécanismes, des phénomènes finalement qui nous sont encore inconnus. La vie elle-même a élaboré des mécanismes particulièrement pertinents, particulièrement efficaces. Même si, et ça c'est un autre aspect, même s'il y a aussi quand même des contingences et des ce qu'on appelle les accidents gelés, les frozen accidents dans l'évolution, c'est-à-dire que certains choix ont été faits à un moment et les organismes vivants s'y sont limités, comme par exemple là, le code génétique dont on vous a rappelé qu'il était de 20 acides aminés à très très peu d'exceptions près. Ce qui, pour les biologistes de synthèse, peut être un argument pour dire que ben là, il y a peut-être justement un champ des possibles qui n'a pas été exploré par le vivant et qui pourrait être exploré par nous. Alors, il y a deux autres aspects de la théorie de l'évolution. Un premier aspect qui était très évident dans les années 40, c'est que connaître l'évolution, c'était s'approprier l'évolution. C'est-à-dire l'idée que, puisqu'on connaît, on doit prendre en charge l'évolution du monde vivant et aussi l'évolution de l'être humain. Là encore, ce n'est pas sans résonance avec un certain nombre de débats contemporains ou de projets comme les projets transhumanistes. Et il y a l'autre aspect alors qui est un peu contraire, mais qui insiste sur les limites de la sélection naturelle. Par exemple, la sélection naturelle sélectionne au présent. Et il faut que l'organisme soit en permanence et un avantage par rapport aux autres qui l'entourent. Et ça, c'est une contrainte parce que ça ne permet pas, en quelque sorte, de franchir de grandes étapes de modification, puisque le risque va être qu'après une grande modification, l'organisme sera plutôt désavantagé. Ça encore, c'est un débat qu'on retrouve en biologie de synthèse, biologie synthétique aujourd'hui, l'idée que peut-être il y aurait des moyens d'être plus efficaces que la sélection naturelle. Dans certains cas, de faire ce qu'elle n'a pas pu faire à cause des contraintes du processus même de l'évolution. Et puis l'invention de l'informatique, alors bon, pourquoi ? Ben parce que d'abord, l'informatique au fond part de l'expérience humaine et à partir de ça dessine une machine qui mime comment on se représente la possibilité pour les êtres humains de calculer. Et puis évidemment, l'ordinateur va ensuite revenir vers les sciences, en particulier les sciences biologiques, la biologie moléculaire avec la notion de programme. Je n'ai pas le temps ici de le discuter, mais ce qu'on appelle le programme génétique a joué un grand rôle et a suscité énormément de débats. Est-ce que c'est vraiment l'équivalent d'un programme d'ordinateur ou pas ? Maintenant, on serait beaucoup plus prudent qu'on était dans les années 1970, mais aussi en écologie, en neurobiologie, bien sûr, sans parler des outils que l'informatique apporte. Alors, voilà ma conclusion, mes conclusions. Ben, la première conclusion, c'est qu'il y a ce va-et-vient et ce qui fait qu'on a des parcours surprenants. Par exemple, les réseaux de neurones. Au début, les réseaux de neurones ont été faits pour mimer le fonctionnement des neurones, pour essayer de comprendre comment la mémoire fonctionnait, par exemple. Puis les réseaux de neurones ont été utilisés par les informaticiens, mimés par les informaticiens, mais qui ont montré qu'ils avaient des propriétés, par exemple, permettre l'apprentissage, la reconnaissance des formes, etc. Et aujourd'hui, ben, les réseaux de neurones des informaticiens n'ont guère à voir avec les réseaux de neurones des biologistes. Ils sont changés de domaine de recherche. C'est donc devenir des machines, si on peut dire, indépendantes. Mais en même temps, rien ne dit que dans le futur, il ne va pas y avoir un retour de ces dispositifs mécaniques pour expliquer certains processus neurobiologiques. Il y a de multiples manières d'approprier. On peut s'approprier de différentes manières, par la connaissance ou par l'utilisation même du matériel biologique. Et je voudrais, en 30 secondes, contraster la thérapie génique et la thérapie cellulaire. La thérapie génique, on a des connaissances sur les gènes et en fait, on sert de ces connaissances pour essayer de guérir, d'introduire des formes normales de gènes. La thérapie cellulaire, on a aussi des connaissances sur les cellules, leurs différentes sessions. Néanmoins, on laisse beaucoup plus d'autonomie à ces cellules une fois qu'on les a réintroduites dans l'organisme. Donc, deux manières de s'approprier le vivant différentes. Alors, appropriation, j'en ai parlé de l'évolution du vivant. Et la dernière, évidemment, c'est qu'il peut y avoir des appropriations destructrices du vivant appropriation à la fois par les connaissances, mais appropriation aussi par l'utilisation, par exemple, des organismes du vivant ou par la synthèse de nouveaux organismes potentiellement dangereux, etc. Donc là, s'ouvre tout un champ de questions éthiques. Merci.
C'est bon. Grégoire Michaud, biologiste. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que le vivant était capable de se développer lui-même. Est-ce qu'on a essayé de faire pas trop à ma connaissance, mais peut-être que les réseaux de neurones justement seraient capables de faire ça, de se développer eux-mêmes, des machines qui seraient... Pour mimer le vivant, il faut être capable de se développer et de dégrader une partie de soi-même pour fabriquer autre chose.
Oui, alors ça, je pense qu'on va en savoir plus dans les exposés de deuxième partie de session. Sur cette question précise, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair aussi que... c'est à mon tour de plus. Il est clair aussi qu'on a cherché, par exemple, à faire des machines qui étaient capables d'apprendre elles-mêmes. Donc là, le parallèle s'est fait. Dans le cas de machines qui se développeraient elles-mêmes, on y avait pensé, mais je ne sais pas où en est la recherche actuelle. Vous devrez reposer la question à des spécialistes des robots pour savoir s'il y a beaucoup de travaux faits dans cette direction.
Bonjour et merci de votre intervention. C'était par rapport au gene drive, forçage génétique. Vous parliez là d'appropriation du vivant, d'appropriation de l'évolution du vivant, donc ce que deviennent ces hybrides qui sont disséminés dans l'environnement. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Quel est votre point de vue sur cet aspect?
Eh bien, le gene drive, il y a des études qui commencent parce que finalement, c'est assez intéressant. C'est passé un peu en dessous du débat qu'il y a eu sur CRISPR-Cas9, qui a été focalisé sur la modification de la lignée germinale humaine, etc. Mais pratiquement, une des premières applications de CRISPR-Cas9, ça a été de montrer qu'il permettait de faire ce phénomène de genetic drive, c'est-à-dire de diffuser des gènes dans des populations sauvages beaucoup plus rapidement et efficacement que jusqu'alors. Ce que j'en pense, c'est que ça pose effectivement beaucoup de problèmes, parce que c'est une méthode qui semble être efficace, que certaines applications peuvent être bénéfiques. C'est celles qui sont toujours mises en avant, qui sont d'avoir par exemple des moustiques qui ne pourront plus porter de germes pathogènes, transporter une maladie, etc. Donc il peut y avoir des applications positives. Mais en même temps, effectivement, c'est une méthode beaucoup plus efficace que ne l'était l'ingénierie génétique classique. Et donc, du même coup, elle pose les mêmes problèmes, mais avec plus d'acuité. Il faut voir qu'avec ce niveau de dispositif CRISPR-Cas9, on peut en faire énormément de choses. Donc, de toute façon, il sera utilisé en recherche biologique. Il l'est déjà, d'ailleurs, largement. Mais on peut faire des tas de choses et à chaque fois, son usage peut pose des questions différentes et nécessite des débats différents.
Bien, donc s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons passer au conférencier suivant. Merci beaucoup, Michel.
Donc le prochain conférencier...